on accueille donc Véronique Aiglin de l'INSA à Lyon, qui est responsable de l'équipe Imagine du LIRIS, donc qui travaille, enfin je vais vous laisser vous présenter peut-être plus en détail sur l'analyse d'images de documents par l'exploitation de la perception visuelle humaine.
Je pense qu'on va être très complémentaires en fait avec Joseph, puisqu'il y a pas mal de choses, de mots-clés, même de projets sur lesquels je vais peut-être rebondir avec peut-être un éclairage un peu différent, puisque du coup c'est l'éclairage qui viendra de mon équipe de recherche, mais on a pas mal de choses qui pourront être... je pense que ça va arriver. Voilà, alors je vais faire un petit peu la même chose en version française du côté de Lyon. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire LIRIS et je travaille dans une équipe qui s'appelle Imagine. C'est une équipe qui est spécialisée en analyse d'images, pas exclusivement du document, on fait un petit peu tout. Il y a de la vidéo, il y a du document, il y a de l'image de scène, il y a de l'activité humaine également et on essaye de travailler en fait sur un panel assez diversifié de contenu. Ici, je vais faire un focus sur les données du patrimoine, sur nos projets que nous avons depuis presque une vingtaine d'années autour de l'analyse de documents patrimoniales. Et je vais également pouvoir rebondir sur tout un tas de projets, parce qu'on est finalement à la croisée des chemins avec les différentes équipes qui relèvent de Valconum, et notamment l'équipe du CVC de Barcelone. Quand il parlait de la Venice Time Machine, je ferai un petit focus sur une petite partie. On aimerait bien y aller, on n'y est pas. Et on a également on aimerait bien pouvoir se joindre à eux sur un projet un peu différent qui traite de la donnée, qui ne traite pas forcément de l'image, mais qui traite aussi de la donnée. C'est de la donnée sonore. J'ai rien fait. Alors ça, c'est juste pour faire... J'ai vu Josette tout à l'heure sur un de tes diapos. Tu avais la même. Je pense que c'est la plus belle bibliothèque. Et je me suis dit que commencer par ça, c'était juste pour dire que voilà, si un jour on avait un peu des sous, il faudrait faire un petit tour en Europe des plus belles bibliothèques parce qu'il y a des choses à voir qui sont superbes. Et j'ai trouvé celle-ci. Je me suis dit que voilà, j'avais juste envie de commencer par la mettre, la poser là, parce qu'elle me plaisait bien. Et je vois qu'elle a aussi inspiré l'exposé de Joseph. Donc un jour, on s'y retrouvera. Alors... On a un historique d'activité dans Imagine qui est assez vaste, puisque ça fait quand même pas mal d'années qu'on travaille sur le sujet. On a commencé par s'intéresser à la transformation numérique, on s'est intéressé à la numérisation au départ et puis progressivement à l'extraction d'un tas d'informations. Je ferai un parcours, j'essaierai d'aller assez vite au début, parce que je pense que Joseph a quand même bien dressé le panel. Il a quand même présenté la problématique de manière approfondie, donc je ne m'y attarderai pas trop sur la diversité des supports images, sur la diversité des besoins aussi. Alors j'avais prévu de faire un petit peu la même chose, donc j'irai peut-être un petit peu plus vite. Dans l'équipe, on a une complémentarité de compétences, puisqu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'analyse du signal, sachant qu'une image, lorsqu'elle est numérisée, c'est une matrice de pixels, et on peut également la représenter sur le plan du signal et extraire de l'information dans le signal. On a à l'intérieur de l'équipe aussi des spécialistes de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on nourrit en fait des mécanismes, des outils qui ont besoin d'apprendre avant de pouvoir décider, avant de pouvoir faire une prédiction. Eh bien, toutes ces modalités, tous ces modèles en fait, d'apprentissage sont assez complexes à mettre en œuvre et pour pouvoir les dessiner de manière correcte et scientifiquement valide, eh bien, ben, voilà, on s'associe avec également des spécialistes de ces domaines-là. Alors, complémentarité de compétences, mais c'est parce que justement, il y a énormément de variétés à l'intérieur des contenus. Alors, contenu fréquentiel, les variations qui sont présentes à l'intérieur des images, les variations des modèles. On a dans le pipeline, on va dire, dans la chaîne complète de dématérialisation, tout un tas de process, en fait, qui sont assez complémentaires et qui ne nécessitent pas forcément les mêmes compétences. Donc, l'équipe au sein de laquelle je travaille me permet justement de travailler sur l'ensemble de ces compétences. Sur le plan des thématiques qui sont ciblées, nous, dans le domaine de l'analyse du document patrimonial, j'en ai mis un certain nombre. Alors, je ne suis pas forcément exhaustive, mais je pense que j'ai quand même recouvert à peu près une diversité qui ressemble à la réalité. On travaille d'une part sur des aspects très bas niveau dans les images, lorsqu'elles sont numérisées, et des aspects de restauration. On essaye d'améliorer le rendu de l'image pour essayer d'en analyser de manière plus pertinente les formes, lorsqu'elles sont dégradées, lorsque l'image est sous-résolue, c'est-à-dire que la qualité de l'image n'est pas suffisante. lorsque les formes sont dégradées, on ne peut pas les reconnaître correctement, donc il faut un petit peu les restaurer. Donc tout ce travail de restauration peut se faire avec des techniques d'analyse d'image. On s'intéresse également à la mise en page de l'information, et tout à l'heure Joseph a bien montré, dans les documents d'archives par exemple, on a des structurations qui sont effectivement très codifiées, où on a des tableaux qui contiennent du texte manuscrit, du texte imprimé, tout coexiste en fait, et donc la structure du document a de l'importance pour pouvoir accéder à l'information. C'est important de pouvoir identifier la structure, ou du moins savoir qu'elle est structurée pour savoir comment les informations séquentiellement sont organisées. Il y a une information également qui nous intéresse dans tout ce qui est l'écrit, donc le texte lui-même. Donc il s'agisse du manuscrit, de l'imprimé ou du symbole. On travaille sur la reconnaissance de l'écrit avec des techniques aujourd'hui qui s'orientent vers des architectures dites de neuronales, donc issues des réseaux de neurones parce qu'elles sont très performantes. On voit aujourd'hui que c'est quasiment celle qui dépasse absolument l'état de l'art, mais de très loin, par rapport à l'historique qu'on avait, qui était un historique, on va dire, plus orienté sur la description des contenus. Cela dit, je vais quand même beaucoup parler de ce qu'on a fait historiquement, puisque c'est quand même sur cette base-là qu'on a travaillé, puis ça permet aussi de faciliter, je pense, le dialogue, puisque la façon de travailler que nous avions avant, au niveau de la collaboration avec les sciences humaines, était très liée à un besoin d'interprétation. C'est-à-dire qu'on travaillait pour qu'on puisse derrière s'expliquer les choses. Aujourd'hui, on a peut-être un peu plus de mal avec nos nouveaux outils à expliquer le pourquoi le système est performant et pourquoi il a décidé telle chose. Donc, ce lien-là peut se faire un petit peu plus facilement quand on a l'illustration visuelle de « on sait que ça, l'information a été calculée à cet endroit-là » plutôt que de ne pas exactement complètement le déterminer. Donc, on travaille également sur, de point de vue thématique, sur des aspects de word spotting. Donc, on a travaillé avec le CVC de Barcelone, justement, sur l'extraction de mots-clés, lorsque la reconnaissance ne peut pas se faire, lorsque l'OCR n'est pas capable de transcrire complètement les textes. Donc ça permet tout de même d'arriver à extraire de l'information de manière parcellaire, mais suffisante néanmoins pour savoir qu'un document peut être pertinent parce qu'il contient l'information qui est recherchée. On n'a pas forcément toujours besoin de tout lire. On travaille également sur l'analyse des écritures. Alors, on ne fait pas de la graphologie en tant que telle, mais on s'intéresse à la manière dont les écritures sont produites, sont fabriquées, pour faire par exemple de la datation ou pour nommer une écriture à l'époque du Moyen-Âge, donc sur des écritures paléographiques. Et on s'intéresse à l'identification de scripteurs sur des ouvrages qui sont plus récents, lorsqu'il y a par exemple coexistence de plusieurs mains, pour savoir qui a participé à la rédaction de telle brique ou de tel brouillon rédactionnel. Donc on peut aujourd'hui mettre en place des techniques de ce genre-là. Donc on a pas mal travaillé, notamment avec Nicole Olipad sur l'identification des scripteurs. Et puis à côté, d'autres thématiques qui correspondent à des choses qui sont peut-être plus industrielles. Là, on a aussi tout un panel, j'en parlerai pas vraiment aujourd'hui, mais je mettrai quand même de temps en temps quelques petits exemples sur les problématiques industrielles, notamment les documents qui sont traités en flux. Donc même l'industrialisation de la numérisation, par exemple, la documentation est traitée en flux. Il faut être capable de la reconnaître en temps réel lorsqu'elle arrive sur une chaîne de numérisation, savoir si le document est bien numérisé, savoir quel est son contenu, savoir s'il est nécessaire de le rescanner lorsque la qualité n'est pas la bonne, par exemple. Donc tout un tas de choses que nos systèmes sont capables de faire avec une interprétation qui, cette fois-ci, a des contraintes nouvelles qui sont des contraintes de temps réel, plus que des contraintes, on va dire, de justesse dans l'analyse vraiment du graphisme. C'est la contrainte temps réel qui se rajoute à cela. Il faut être rapide, efficace et opérationnel. Donc c'est une problématique qui peut être un petit peu différente. En tout cas, ça contraint les modèles à être efficaces de ce point de vue-là. Et il y a un autre élément que je n'ai pas cité ici, c'est tout ce qui concerne des données qui sont des données cartographiques, où on a également travaillé un certain nombre de fois. Je vois que je reste longtemps sur ces diapositives. Alors ça va me permettre, là je vais aller assez vite, diversité des collections que nous avons traitées. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a du document manuscrit de la période du Moyen-Âge, hein. Il y a des archives du Moyen-Âge aussi, il y a des incunables, des manuscrits d'auteurs. Donc je vais les balayer juste pour vous montrer un petit peu ce qu'ils contiennent et ce sur quoi nous avons travaillé. Donc vous voyez ici, il y a des documents à la fois couleurs qui contiennent une diversité de contenus manuscrits en plusieurs styles d'écriture et graphiques, des manuscrits du Moyen-Âge qui sont directement binarisés. On a travaillé sur du document noir et blanc directement, on n'avait pas accès à l'information couleur au départ. Il s'agissait de travailler sur l'étude des calligraphies, l'étude de la mise en page, donc l'analyse colorimétrique évidemment, puisqu'il y avait sur ces images-là pas mal de couleurs différentes. Vous voyez qu'il y a également des insertions de texte à format multiple qui apparaissent, donc parvenir à faire des segmentations de ces documents. Donc, documents de langues différentes, donc avec des copistes latin-arabe par exemple. Les documents de droite sont des documents, je reparlerai tout à l'heure, qui sont issus de manuscrits de Tombouctou, sur lesquels nous avons aussi travaillé pour faire de la restauration. Ces documents-là, les documents du Moyen-Âge, ont fait l'objet de plusieurs projets, hein, et nous avons travaillé avec Nicole sur ces projets-là. Projet qui a démarré en 2014, même avant, le projet 2011, je crois, le projet Graphème et le projet Oriflamme, j'en reparlerai. Nous avons travaillé sur l'étude des calligraphies, l'étude, en fait, l'identification des écritures du Moyen-Âge et l'analyse également de la mise en page pour arriver à faire une bonne séparation entre les couches graphiques, les couches textuelles et la manière dont l'ensemble était organisé sur la page. Archives civiles, où là on arrive tout doucement sur des documents manuscrits plus récents et un petit peu plus divers et souvent de qualité qui sont moins bonnes parce que le papier n'était pas forcément de très très bonne qualité, la conservation n'a pas pu être très bonne. Et donc là on se retrouve avec toute une problématique de restauration nécessaire si on veut arriver à faire quelque chose de ces documents. Donc, nous avons un collègue dans l'équipe qui a beaucoup travaillé sur la restauration de ces documents pour essayer de leur rendre en fait une apparence qui est lisible, pour faire des séparations recto-verso, pour arranger la forme des caractères lorsqu'elle était dégradée, voire lorsqu'elle était complètement, lorsqu'il y avait des trous dans le papier. Donc on voit ici, par exemple, un recto, un verso, on arrive difficilement à le lire. Donc il y a des techniques qui nous permettent de faire cette distinction. Ici un exemple de manuscrit d'auteur, c'est un manuscrit qui a été numérisé à la bibliothèque de Bordeaux. Il s'agit d'un extrait de l'histoire véritable de Montesquieu, où plus d'une trentaine de copistes, de scripteurs, en fait, ont participé à la rédaction de ses œuvres, notamment l'Esprit des lois. Il ne l'a pas écrit tout seul. Et à l'époque, eh bien, on travaillait sur l'identification en fait, des mains, pour pouvoir savoir quelles étaient les portions qui avaient été faites par lui. Donc il y avait toute une application qui s'intéressait à la fois à la mise en page, pour arriver à supprimer toutes les bifures des textes qui étaient écrits, qui faisaient le contenu de l'ouvrage. Et on a mis en place des méthodes pour faire cela. Ici encore un exemple à droite de l'Esprit des lois. Et à gauche un autre exemple de manuscrit de copiste. Voilà, là encore des documents qui ressemblent un petit peu à du manuscrit médiéval, mais ce sont des incunables, donc ce sont des premiers imprimés qui ressemblent de près à ce qu'on pouvait faire sur le plan manuscrit. Les imprimés de la Renaissance. Donc là aussi, un des premiers projets européens en 2000, nous avons participé à la transcription de ces imprimés de la Renaissance. J'en reparlerai tout à l'heure, encore des imprimés de cette période-là. Les gazettes, donc là c'est les premiers journaux européens. Les gazettes, alors ça c'est les gazettes du Pays-Bas, les gazettes de l'aide. Ce sont des documents politiques en fait qui sont assez intéressants et qui contiennent énormément d'informations avec une densité de mise en page, je n'ai pas d'exemple ici, où les textes sont extrêmement denses, extrêmement resserrés, où la numérisation, la qualité de la numérisation est fondamentale. Donc encore des extraits où on voit toutes les difficultés à traiter une information qui est extrêmement bruitée, où il faut faire une séparation propre des caractères par rapport au fond. Et là, sur le plan régional, eh bien, à BM de Lyon, eh bien, toute la presse régionale est quasiment numérisé aujourd'hui, donc on peut y accéder en ligne avec des moteurs de recherche qui ont relativement bien fonctionné puisqu'ils sont accessibles en mode textuel et avec des corrections qui sont pas nécessaires parce que la qualité des documents qui ont été numérisés est assez bonne. Des documents d'archives et puis maintenant du document moderne sur lequel on travaille aussi, des documents capturés en mobilité avec des smartphones. La problématique, vous vous en doutez, n'est pas la même. Donc ce sont des documents qui sont souvent incurvés, qui sont souvent floutés, qui ne sont pas de très bonne qualité, qui sont partiels également, donc et qui sont pris avec une rapidité d'acquisition qui fait que effectivement la qualité ou de résolution n'est pas forcément la meilleure. Et donc là encore, tout un tas de problématiques qu'il faut effectivement arriver à un moment donné à résoudre. Sans parler des documents d'entreprise, je n'aborde pas tout spécialement ce sujet, mais je vais quand même montrer cette diversité-là, où on travaille beaucoup sur des documents couleurs. La mise en page n'existe quasiment pas, puisqu'il y a une telle diversité de mise en page qu'analyser une mise en page, ça devient mission impossible. En tout cas, essayer de les référencer, c'est à peu près mission impossible. Il y a des sociétés, dont la société Esquerre à Lyon, par exemple, qui travaille là-dessus, avec plusieurs milliers de mises en page différentes, voire même plus d'une vingtaine de mises en page différentes sur des mêmes factures d'une même entreprise. Donc ça veut dire que si on essaie d'emprunter la voie de la modélisation de la structure, on n'y arrive pas. Donc il faut trouver d'autres modèles, d'autres outils. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut un petit peu réinventer nos process habituels où avant, on avait la possibilité de modéliser à base de heuristiques, de règles.
des choses qui étaient relativement stables. On part sur des modèles qui sont très très différents. Et on emprunte la voie aujourd'hui des modèles, des architectures neuronales bien souvent, qui sont en fait des nouveaux outils, qui sont assez polyvalents et qui permettent de créer des espaces de représentation qui sont très puissants. Alors au sein de cette diversité, eh bien, on a toute une diversité de problématiques aussi, forcément, puisqu'on a des sources qui sont éparses, qui ne sont pas numérisées avec les mêmes outils. On a des dégradations qui sont tellement diverses, on ne peut pas les énumérer tellement il y en a. Il y a des informations également qui concernent ce qu'on appelle les métadonnées. Ce sont des textes d'accompagnement des documents qui peuvent soit décrire simplement l'origine du document, soit aller un peu plus loin, directement contenir même la transcription lorsqu'elle existe. Et là aussi, on ne peut pas se baser sur des métadonnées qui sont totalement homogènes. Donc toute cette hétérogénéité de corpus fait qu'en fait, on a beaucoup de mal à travailler de manière, on va dire, uniforme lorsqu'on essaie de scinder les... Lorsqu'on essaie au contraire de mettre en commun des sources qui sont des sources documentaires, d'archives ou de bibliothèques distantes. C'est un petit peu le problème qu'on a également avec les machines à remonter le temps ou avec les Venice Time Machine qui cherchent justement au sein de l'Europe à rassembler des grandes collections qui ne sont pas modélisées de la même manière. Donc on a aussi ces problématiques-là de normalisation et d'accès à une information qui est très hétérogène. Alors au sein de dans la diversité des objectifs, je vais en parcourir quelques-uns, puis après je ferai le focus sur des projets vraiment précis, où je montrerai une réalisation précise, avec une démo peut-être si on a un petit peu le temps de la voir, pour vous montrer ce qu'on est capable de faire et jusqu'où on est capable d'aller. Et ça me permettra, quand je pourrai, de faire le lien avec ce que Joseph a présenté, parce que finalement on est à la croisée des technologies, on est un petit peu à la croisée des chemins en termes de problématiques. Tout à l'heure, vous demandiez pour quelle raison, à quelle fin, finalement, faire tout ça. Est-ce qu'on est vraiment intéressé? Et bien, en fait, dans la recherche d'informations au sens large, on est dans cette fouille d'informations à laquelle maintenant on a accès. Et bien, le but, c'est d'arriver à y accéder tout simplement. Parce que numériser ce qui a été fait pour de nombreuses institutions et de nombreuses archives, c'est une chose. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'outiller, d'équiper toute cette numérisation de quelque chose qui permette d'y accéder. Sinon, effectivement, ça n'a pas énormément d'intérêt. Donc, les premiers objectifs qu'on a au départ, évidemment, lorsqu'on a l'image numérisée, c'est de la restaurer, c'est d'arriver à améliorer les contrastes, d'extraire les textes, améliorer le rendu et les rendre lisibles pour que derrière, une machine soit capable d'en exploiter le maximum d'informations. Donc ici, un exemple, par exemple, qui avait été fait, mais ça date déjà d'il y a quelques années, c'était des documents épigraphiques de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée à Lyon, et des archives également qui concernaient les palimpsestes. On s'est intéressé également à la segmentation en couches d'informations sur les imprimés de la Renaissance, où il a été question, effectivement, de procéder à des techniques de compression de l'image, pour modéliser d'une part l'écrit, modéliser d'autre part la partie qui était graphique et arriver en fait à reconstituer l'image. Et ça, à l'époque, c'était pour faciliter la transmission sur les réseaux parce qu'avec Internet, lorsqu'on numérisait, c'était trop gros, on n'arrivait pas à rouvrir l'image et on attendait 20 minutes. Et donc, ces techniques avaient été imaginées au départ, mais ça nous a permis aussi d'imaginer des scénarios de compression et de représentation des caractères. Donc, ça nous a fait progresser pour d'autres choses dont on s'est servi bien plus tard. Donc aujourd'hui, le problème du réseau est probablement résolu, en tout cas pour transmettre des grosses images, mais les difficultés qu'on avait à l'époque nous ont, et les problèmes qu'on avait rencontrés à l'époque nous ont permis d'en solutionner d'autres après. Donc accéder sélectivement au contenu, c'est également donc séparer en couches. Hein. Là, on a par exemple un projet qui concerne les cartes, le projet ECLAS, c'est un projet ANR qui concerne des cartes de l'ALF. Ce sont des cartes qui contiennent en fait une information phonétique, de mots positionnés. Donc là, c'est situé sur la droite. Ici, on ne voit pas très bien parce que je n'ai pas mis la carte en entier, mais on voit juste quelques petits symboles. Donc ce sont des symboles phonétiques qui sont écrits sur les cartes, qui expriment en fait un concept. Ça peut être le concept de champignon, ça peut être le concept de la mouche ou autre chose. Et chaque région a finalement sa manière de prononcer le mot. Et ce qui est nécessaire de produire ici, c'est une séparation en couches d'informations pour isoler les noms des régions, des informations phonétiques, des numéros de points d'enquête, des lignes de partage de régions, etc. Donc arriver à séparer en couches d'informations l'ensemble des informations, ça se retrouve sur des documents anciens, sur des cartes, sur des plans, sur des documents géographiques anciens, mais on le retrouve également, cette problématique, sur des documents très modernes, comme des formulaires, par exemple, d'entreprise, où il est question de faire une séparation entre les annotations manuscrites, les surcouches colorées, les textes imprimés, les tampons, les logos, etc. Donc toute une série d'informations, il peut y en avoir plus d'une quinzaine, en fait, qui coexistent et qui créent justement ces variations. En termes d'objectifs toujours, sur des documents comme des documents ici, sur des documents manuscrits, nous avons travaillé sur les manuscrits de Flaubert avec l'objectif de segmenter en fragments mobiles l'ensemble des petits paragraphes de texte. Et on a travaillé en particulier sur Bouvard et Pécuchet qui n'avait pas été édité à l'époque de la mort de Flaubert. Et il y a plusieurs éditions qui ont été produites. Et là, on s'inscrivait dans un cadre d'édition critique pour aider justement à produire une nouvelle édition et à rendre mobile des fragments pour que les chercheurs en sciences humaines puissent y travailler indépendamment de la page et indépendamment du feuillet. Et donc pour cela, il a fallu mettre en place un outil de segmentation automatique en zone. Donc là, rapidement, d'autres éléments qui concernent la reconnaissance de régions, donc l'extraction de certaines zones d'intérêt dans les documents, extraction de la structure également, sur des carnets de fouilles, ou bien sur des imprimés, notamment sur des documents de dictionnaire ou de la prosopographie. Les derniers objectifs, identification des mains, comment dater une œuvre ou reconnaître une main lorsqu'il y a coexistence de plusieurs écritures au sein d'une même page. Comment dater une œuvre, comment identifier, caractériser un style ou dater une écriture. Donc là aussi, alors on a proposé avec le LIPAD et l'IRHT de Paris plusieurs compétitions, des challenges en fait, qui ont été mis en œuvre à l'occasion de compétitions de conférences internationales pour essayer de voir quelle était la solution la plus efficace pour dater automatiquement ces manuscrits du Moyen-Âge. On était dans un projet et on avait essayé d'explorer des descripteurs qui étaient des descripteurs de textures assez, assez globaux. Et on s'était aperçu effectivement que nos méthodes n'étaient pas infaillibles à certaines époques où il y avait effectivement des vraies confusions d'écriture et où il n'était pas forcément toujours possible de traiter les différences qui se faisaient sur de toutes petites bribes d'informations. Comment aider la lecture des textes manuscrits ? Donc localiser de l'information sans lire. Donc ça, c'est intéressant de le faire avec les techniques de word spotting. Donc on cherche, donc là je me suis permise d'emprunter une page d'archives de Joseph, puisque nous avons travaillé à une époque avec lui sur la mise en place d'un outil justement de localisation de mots-clés. Et on fait aujourd'hui la même chose avec des partitions musicales manuscrites qui sont difficiles à transcrire, puisqu'elles sont manuscrites, donc pleines de bruit, pleines d'erreurs, totalement imparfaites. Donc on n'a pas la capacité à produire ce qu'on appelle un OMR, c'est la version musicale de l'OCR. Et dans ce cas, comment être capable d'analyser tout de même ces partitions avec des outils qui ne nécessitent pas une lecture complète. Donc ça fait partie d'un travail également de thèse sur lequel on est actuellement. Et qui vise à reconnaître cette fois-ci des primitives, des petites primitives simplement musicales, et à produire en fait des séquences qui ne sont pas de la transcription sur laquelle on travaille. Donc c'est une version, on va dire, un petit peu transformée de la transcription, mais ça nous permet en tout cas de travailler sur des contenus et sur des séquences, qui sont des séquences, on va dire, musicales, mais qu'on ne peut pas réellement interpréter comme on le ferait avec un fichier MIDI qui représente vraiment la donnée musique. Donc au sein de cette diversité d'images, au sein de cette diversité de besoins, eh bien, on a également encore une fois une diversité de problèmes. Donc on a divers problèmes parce que les images et documents sont par nature texturés, donc on a des questions qui relèvent de l'analyse de texture, que l'on aura résolues depuis une vingtaine d'années avec des méthodes très très différentes. On a des problématiques qui sont des problématiques très fines et très locales d'analyse de la géométrie, les traits. On est dans des images qui sont souvent composées de traits, de formes pleines, de formes creuses, convexes, concaves, avec toute une particularité, tout un tas de particularités variationnelles et géométriques. Et nous devons donc produire des méthodes qui sont capables de les caractériser. Donc on est sur de la notion très très fine ici, et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une résolution suffisante quand elle n'existe pas et quand on a des images sous-résolues, eh bien on fait ce qu'on appelle de la magnification, c'est-à-dire qu'on augmente la résolution de l'image pour la rendre plus lisible et exploitable. Et à partir de là, eh bien on est en mesure de pouvoir analyser plus précisément les traits. Naturellement, il est nécessaire également, sur ce type d'image, lorsque la résolution est suffisante, de modifier l'allure de l'image, par exemple de lisser un contour pour l'avoir plus nette, et puis de conserver certains points de singularité pour pouvoir bien localiser les zones de changement de direction, par exemple dans les traits. Les images sont bruitées, donc là, on ne peut pas traiter des images dans un état qui est un état d'origine. La plupart du temps, on les traite, on les modifie, et ensuite on les embarque dans un processus. L'image est ensuite organisée. Là, je refais référence à un travail que nous avions avec le CVC sur l'extraction de l'information sur du texte et la modélisation de l'écriture à partir de sous-graphes qui représentaient chacun une petite bribe, un petit agencement local, topologique de caractère, pour derrière pouvoir comparer, faire des comparaisons d'éléments. Et enfin, le document est organisé puisqu'il est structuré globalement. Donc là, on a une organisation qui est assez triviale parce qu'elle est un peu synthétique, comme nous, on l'admet bien. Elle n'est pas toujours aussi hiérarchisée, mais dans la plupart des documents, on a néanmoins une information d'organisation et de hiérarchie. Alors, sans vouloir balayer l'exhaustivité des choses que nous avons pu, auxquelles nous avons participé ces dernières années, il y a des projets sur lesquels je vais mettre un peu l'accent ici. Alors, je l'ai parcourrai peut-être pas tous, tout dépendra du temps. D'ailleurs, j'ai même pas emmené ma montre, je sais même pas l'heure qu'il est. Vous pouvez peut-être me rappeler si je dépasse, parce que je vais pas faire attention. Donc, il y a des projets sur lesquels je voudrais parler, et puis il y a un projet également qui me tient à cœur, qui permettra de faire peut-être le lien avec la Time Machine. C'est un projet de recherche très pluridisciplinaire, et donc dans lequel la partie document n'est pas la partie principale, mais qui me tient à cœur, donc j'en parlerai peut-être un petit peu plus. Et là, je vais essayer de regarder un petit peu historiquement. Donc, j'ai gardé un peu une chronologie dans la présentation. Les premiers imprimés, l'analyse de l'écriture paléographique. Donc, ça, c'est un travail qui est intéressant parce que nous avons beaucoup œuvré avec plusieurs laboratoires de recherche ici pour la mise en place d'outils d'analyse de textes du Moyen-Âge. Des textes anciens également, mais qui sont d'origine différente. Des textes chinois avec un projet Guanchibi, des textes arabes avec les manuscrits de Tombouctou. Et puis aujourd'hui, on est sur des choses qui sont assez hétérogènes, où on mélange le texte et l'image, et on s'intéresse aussi bien à la photographie qu'au texte lui-même. Donc on balaye aujourd'hui des choses qui sont, on va dire, en termes de médias et puis de contenu numérique, assez divers. On rajoute également ce qu'a bien souligné Josette tout à l'heure, la dimension textuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans l'image, on est aussi dans le texte, dans l'accompagnement du texte pour l'image et dans cette double modalité d'accès à l'information. Donc comment faire pour arriver à créer des espaces joints de représentation où il y a une coexistence en fait d'informations à la fois visuelles et à la fois textuelles. Alors les tout premiers projets, je vais faire un coucou à... Il va se dire, oh là là, il nous parle encore du projet Déborah. Mais oui, c'est pas très long, mais quand même, c'est un projet un peu historique où on avait travaillé sur donc les imprimés de la Renaissance. Et là, l'idée, encore une fois, c'était cette idée de comprimer les images pour pouvoir les transférer sur un réseau. Ce qui est intéressant ici à retenir, c'est pas tout l'historique en fait, c'est la manière d'avoir pensé au départ à créer une transcription qui n'existait pas puisque l'OCR ne pouvait pas fonctionner sur ces imprimés-là, et à créer en fait un OCR à partir de prototypes de caractères. Donc on était vraiment parti sur un modèle de prototype de caractères, et puis finalement une éviction de tous les caractères qui n'étaient pas jolis pour refabriquer une image plus jolie avec le prototype idéal. Et derrière, on était capable de refaire une image totalement synthétique, avec un fond, avec des graphiques qui avaient été compressés, décompressés, donc de manière binaire, ça faisait quelque chose d'assez correct. Et les textes étaient jolis, parce que finalement, on prenait le beau modèle du caractère, et on avait des textes qui étaient très lisibles. Ça faisait peur aux historiens qui voyaient ça en se disant « Oh là là, mais c'est pas comme ça que... » Enfin, il y a des problèmes. Mais pour nous, ça ne voyait rien du tout, on était contents d'arriver à lire. Et ça nous, en tout cas, ça avait rendu service un peu à la science puisque ça nous avait permis de mettre en place les premiers modèles, on va dire, de prototypes qui nécessitaient évidemment au départ l'intervention d'un spécialiste qui détourait tous les caractères possibles modèles. Il n'y avait pas grand chose d'automatisé en fait à la base. Donc là, grosse interface où il y a eu effectivement pas mal d'outils associés qui permettaient d'annoter également les contenus, c'est-à-dire de rajouter un commentaire sur les textes et derrière de pouvoir offrir aux spécialistes un outil de consultation avec des commentaires lisibles, des commentaires partagés, avec des droits d'accès pour pouvoir effectivement rajouter ou non un certain nombre d'éléments, éventuellement corriger ou en tout cas enrichir ces ouvrages. Un autre projet sur l'imprimé, mais comme c'est l'imprimé, après, j'en parlerai plus, et qui fait aussi le lien avec ce que disait José tout à l'heure, sur cette idée de ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire le partage collaboratif, c'est-à-dire, et là, l'idée, avec la société Urbilog, justement, et puis Orange Lab, c'était de créer une plateforme, et ce projet est encore en cours, parce qu'en fait, il va y avoir un deuxième rebond, on est en train de re-réfléchir, en fait, à cette idée de faire un partage de connaissances, enfin, un partage, on va dire, de faire travailler la masse pour pouvoir améliorer le système, le dispositif. Donc, c'était de faire, de proposer, en fait, à la correction des textes qui étaient haussérisés avec des erreurs, et de rassembler l'ensemble des corrections, de faire une validation de ces corrections et de proposer enfin une édition des textes avec le moins d'erreurs possible. Aujourd'hui, on se rend compte que ces choses-là marchent relativement. La bonne volonté des gens, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à mettre en œuvre. Cependant, au niveau de la BNF, ils ont trouvé quelques solutions en proposant des cadeaux, en aidant les lecteurs, en leur proposant effectivement un certain nombre d'avantages. Donc les gens finalement jouent le jeu, ils participent. Et nous, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir utiliser les corrections qui sont faites et alimenter un système qui va apprendre les corrections à partir en fait des erreurs qui sont identifiées. Donc on voit les erreurs, on voit les corrections qui sont apportées. La correction étant supposée être juste, donc il faut valider la correction d'une certaine façon et alimenter comme ça un système de correction qui pourra automatiser d'autres erreurs qui seront similaires aux erreurs corrigées. Voyez. Donc ça, ce mécanisme-là, c'est nourri de cette idée de crowdsourcing, mais c'est derrière quand même appliquer une automatisation pour ne pas avoir à générer en fait de la correction sans fin. Et on a l'intention de poursuivre ce projet aux Alides dans le cadre, alors que je dis c'est pas de bêtises, des imprimés de l'Académie des sciences. Ce sont donc des imprimés scientifiques qui contiennent également des formules de mathématiques. Et c'est sur ce corpus-là qu'on va travailler. Voilà, donc ça, c'est simplement des éléments d'interface en fait, de correction et d'aide à la correction. Quelques outils ont été développés au fil du temps. Alors, historiquement, il n'y avait pas de plateforme collaborative ou de jolis GitHub. Ce sont les nouvelles plateformes où on dépose effectivement les codes de réalisation ou les outils prototypiques. Là, on travaillait plutôt avec des petits outils logiciels que l'on développait soit en interne. Et ici, ils ont été repris par la société I2S et ils ont été vendus avec des scanners, des gros digibooks, en fait, dans les années 2000. Alors sur le manuscrit, on a également un certain historique. Alors je ne raconte pas les anciennes premières expériences que nous avions eues sur la reconnaissance des mains, par exemple, dans les manuscrits de Montesquieu, où là on avait là aussi mis en place des choses qui aujourd'hui, à mon avis, seraient obsolètes. En tout cas, le passage à l'échelle ne serait pas possible puisqu'on apprenait en fait sur la petite diversité d'un corpus. Et on n'avait pas la capacité à imaginer vraiment quelque chose qui puisse éventuellement s'étendre à des collections de manuscrits plus larges. Donc c'était relativement restreint. Mais encore une fois, on n'avait pas tous les outils dont on dispose aujourd'hui scientifiquement. Donc il y avait pas mal de choses. C'était presque plus artisanal. C'est-à-dire qu'on travaillait la description de l'écriture de manière un peu plus artisanale, plus proche du trait, mais encore une fois, de manière assez interprétable. C'est-à-dire qu'on pouvait expliquer ce qu'on extrayait aux spécialistes, aux littéraires, en leur disant mais voilà, cette écriture, elle est caractérisée par ça, comment va-t-on caractériser une rondeur d'écriture, une cursivité, etc. Donc on était plutôt sur des dimensions interprétables, beaucoup plus qu'aujourd'hui. On a eu l'occasion de travailler avec les grosses bibliothèques de Tombouctou également, par l'intermédiaire d'un projet, c'est un projet ANR VECMAS qui a été porté par Georges Boas, qui travaille à l'ENS de Lyon. Et il nous a offert la possibilité donc de travailler sur ce type de manuscrits enfermés dans des boîtes chez des particuliers pour la plupart, donc très difficile d'accès avec des qualités, des capacités à numériser pour nous qui étaient extrêmement compliquées, c'est-à-dire qu'il fallait venir avec l'appareil photo sur pied dans les cabanes, ouvrir la boîte avec le sable, souffler, prendre la photo. C'était à peu près les conditions de numérisation, elles n'ont pas toujours été très bonnes, sauf dans les grosses bibliothèques où là on pouvait procéder à une numérisation plus massive. Les documents étaient extrêmement dégradés, donc là l'image est correcte, mais il y avait beaucoup de documents avec des gros trous, avec complètement illisibles. Donc on a commencé à faire les premiers travaux, on va dire, de restauration de l'apparence de ces ouvrages, et notamment de restauration aussi physique, c'est-à-dire essayer de voir, de restaurer, de manière à rendre à l'image, enfin en tout cas au document, une allure qui était plus jolie que l'allure d'origine. Combler les trous, faire de l'in-painting, c'est-à-dire essayer de combler les trous avec quelque chose qui ressemble au voisinage de l'image. Donc là on s'était intéressé par exemple à squelettiser, classer, essayer de reconnaître par bribes, par portions, un certain nombre de... Donc c'était, là on était plutôt sur un galop d'essais avant de se lancer sur des choses un petit peu plus poussées, et ça a donné l'occasion d'une ANR internationale avec la Bibliothèque nationale de Chine qui a ouvert justement un grand nombre de très très vieux documents sur lesquels nous avons pu travailler. Et à l'occasion desquels nous avons pu mettre en place des outils, alors des outils d'accès à l'information de type word spotting, mais plutôt symbol spotting, puisque là on n'est pas vraiment sur du mot en tant que tel, on est plus sur du symbole, et des outils de restauration dont je vais vous parler un tout petit peu, et qui sont des outils intéressants parce qu'ils ont permis de mettre en place des techniques d'amélioration, de filtrage, on va dire, d'images. Qui ont rendu à l'écriture l'aspect beaucoup plus linéaire de ces contours qui étaient des contours très très abîmés ou très dégradés. Ces filtres ont permis également de conserver, lorsque la numérisation était faite, les fins de traits qui sont généralement des fins de traits très très affadies par la numérisation et par le temps, donc on les voit pas très bien, ils sont très peu contrastés, qui ont permis d'homogénéiser les zones d'arrière-plan et les zones à l'intérieur des caractères très épais. Donc en gros, ce sont des filtres particuliers qui ont la double propriété de conserver les singularités, de préserver les contours et de lisser lorsque c'est homogène. En gros, c'est à peu près ça que ça fait. Et c'est parti de calculs ici où on utilise toute une information variationnelle dans l'image. C'est-à-dire qu'on regarde un point, on regarde son voisinage, on a des descripteurs, des calculs de variation. Et on essaye de travailler sur cette variation. On parle de diffusion et anisotrope parce qu'elle n'est pas identique dans toutes les dimensions de l'espace, et en respectant naturellement les singularités, les contours et les zones homogènes. Et là, un exemple de ce que ça a pu donner sur une image qui est l'image d'origine. Elle n'est pas de mauvaise qualité, cette image, mais ça peut donner une idée de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose en fait sur cette image. Si, on voit le fond. Le fond étant homogène, effectivement, et les écritures, l'intérieur de l'écriture étant homogène, donc je le remets en arrière chaque fois. Voilà. Eh bien, ça lisse l'intérieur, mais ça fait perdre également, avec certains critères, certaines valeurs de paramètres, ça fait perdre les extrémités des traits. Et donc, en jouant sur certains paramètres, eh bien, on est en capacité de préserver l'extrémité des traits. Et donc, de donner à la forme, en fait, toute sa dimension, sans faire apparaître ce qu'il y avait à l'origine, c'est-à-dire les lignes de soulignement, les lignes de démarcation, on va dire, pour l'écriture, qui étaient faites au crayon pour aider le copiste à bien écrire. Donc ça, ce sont des choses qui ont été utilisées et qui ont servi à améliorer toutes ces... et qui sont essentiellement appliquées, en fait, sur des ouvrages très, très anciens. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin sur de l'ouvrage plus récent de ce genre de technique, mais en tout cas, ça a permis d'améliorer l'apparence de ces images-là. Donc là aussi, un outil, cette fois-ci Doc Restorer, mis en place avec tout un tas de traitements, d'érosion, de dilatation, de travail sur des filtrages qui permettent de préserver justement les zones homogènes, etc. Donc, mais ce sont des outils qui sont relativement internes, qui ont été proposés à l'occasion de cette ANR. Je poursuis encore avec... les approches de traitement de documents sur le plan, cette fois-ci, de la séparation couleur. Donc, tout à l'heure, je parlais d'un certain nombre de catégories. Donc là, j'en viens à la partie de séparation en couches d'informations dans les documents. Alors, séparation en couches d'informations, nous avons eu un projet d'investissement d'avenir, justement, avec Jean-Marc qui est présent ici, avec la BNF, la société ITsoft et différents laboratoires pour faire une analyse, justement, de... Nous, on était chargés, en fait, de l'analyse colorimétrique de documents d'entreprise, et c'était également des documents qui étaient très liés à des sources historiques de la BNF sur des cartes et plans. Et ça nous a permis de mettre en place en fait des outils de séparation en couches d'informations qui aujourd'hui vont être repris pour travailler de l'image satellite et de l'image cartographique également, des cartes de Cassini jusqu'aux cartes d'état-major et aujourd'hui les cartes IGN. Et donc là, la séparation en couches couleurs, là c'était le plan du métro, ça permettait justement de traiter les couches d'informations. On avait vu tout à l'heure, je vous avais montré un petit exemple d'un document contemporain avec des surlignements en jaune fluo, avec des signatures, avec des écritures, etc. Tout un tas d'informations qui coexistaient. Et bien là, on est capable de les séparer en couches d'informations avec des techniques de classification ou de clustering des plans couleurs. C'est-à-dire qu'il faut classifier les couleurs, essayer de les rassembler en fonction de leur similarité, et essayer de faire des distinctions d'un niveau de couleur à un autre. Et le système est capable de le faire à partir du moment où il sait quels sont les critères de séparation. Et ces critères, il faut les lui indiquer. Donc il y a une phase d'apprentissage du système où on doit lui indiquer effectivement quelles sont les variations qui sont tolérables, qu'est-ce qu'il faut mettre ensemble, qu'est-ce qu'il faut dissocier pour qu'il puisse lancer, on va dire, une segmentation plus massive sur un ensemble d'images qui respectent les mêmes règles. Donc après, on peut l'appliquer à des tas d'autres choses. Si j'ai le temps, après, je pourrais vous montrer. Ici, sur des partitions musicales, ça, ce sont des partitions musicales de Massonneau du 18e. On peut séparer le fond, la forme, les lignes de portée, avec ici des qualités qui sont pas forcément exceptionnelles, parce que on a forcément toujours des portions intermédiaires au niveau des frontières qui sont communes, mais on arrive à faire une séparation qui nous permet au moins de disposer de la couche d'information principale, qui est la couche des notes, et c'est sur celle-ci que l'on fait après de la reconnaissance. Alors, une partie importante de nos travaux, tout comme la plupart des laboratoires qui travaillent en fait dans l'image de documents, c'est de faire des recherches par similarité de forme. C'est-à-dire qu'on a une forme, un modèle de forme, on veut le retrouver. On peut faire ça pour faire un OCR, mais on peut faire ça aussi lorsque l'OCR ne marche pas, pour essayer de retrouver un symbole, un graphique, un logo, un tampon, ou un dessin, ou une note de musique. Et en particulier, là où ça a été massivement utilisé dans le domaine de l'analyse de documents, c'est pour retrouver des mots ou des portions de mots. Et tout à l'heure, on parlait des correspondances clandestines de l'époque des Lumières. Enfin, moi, j'en ai parlé juste rapidement sur ces correspondances-là, qui sont très, très mal écrites, sur lesquelles, naturellement, les systèmes de reconnaissance de manuscrits ne fonctionnent pas, même les plus performants, même ceux qui fonctionnent avec des réseaux de neurones. On n'arrive pas forcément à bout. On n'arrive pas à bout parce qu'il y a des mots qui ne sont pas écrits en entier, il y a des mots qui sont raturés, il y a des mots qu'on n'arrive pas vraiment à isoler. Et on avait mis en place un outil de recherche, donc de word spotting, un outil de mise en lumière du mot à l'intérieur de ces documents pour pouvoir justement retrouver quels étaient certains mots pour transcrire. Donc la transcription se faisait à la main par le spécialiste. Quel était le mot qui pouvait potentiellement être présent à partir d'un ensemble de pages qui avaient été écrites par la même personne. Et on avait réussi comme ça à lever certaines ambiguïtés en faisant une proposition justement de similarité entre un mot qui était le mot illisible et une liste de mots candidats. Donc en fait, nous, on était plutôt chargés de faire une recherche d'illisible à l'intérieur de ces manuscrits clandestins. Alors, historiquement, les premières approches de word spotting ont été mises en place chez nous dans les années 2004 avec une technique qui visait en fait à extraire des guides, donc de trouver des variations verticales à l'intérieur des mots. Ça, c'était pour le texte latin. Et puis de faire une comparaison de petites images avec une mesure un petit peu élastique, qui n'était pas une mesure stricte de similarité, qui permettait en fait de déformer la forme et d'essayer de la parier à une autre. Et on le faisait sur un ensemble de guides, un mot étant constitué théoriquement à peu près des mêmes lettres, si on veut les associer, ou deux mots étant constitués les mêmes lettres, ben on essaie de trouver la même nature des guides et de comparer dans le voisinage de ces guides pour essayer de voir quel est l'effort à fournir pour transformer une image et aboutir à la seconde. Et cette technique de word spotting a été mise en œuvre dans ces années-là. Elle a été prototypée et industrialisée également dans les années 2012-2014 par une start-up qui a été incubée par l'équipe. Et donc ça faisait partie en fait d'une base de travail qui était intéressante, en tout cas de comparaison pour nous lorsqu'on développait de nouveaux algorithmes. Cet outil a été intéressant parce qu'il permettait d'interroger le texte à la fois par un exemple d'image, mais également par un mot qu'on pouvait tout simplement fabriquer avec le clavier. Donc le mot clavier générait une image à partir d'un petit lexique qui avait été appris par le système, donc un petit vocabulaire, on va dire une séquence de 26 lettres, pour faire simple, et donc une nouvelle fabrique d'imagettes à comparer avec les images du texte. Aujourd'hui, on dispose de systèmes qui sont plus performants que ça, ce dont parlait Joseph tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est capable d'interroger le système avec du texte au clavier. On n'a pas besoin de refabriquer une image artificielle pour comparer l'image avec celle qui est présente dans la base d'images, mais on va aller se projeter dans un espace de représentation joint où le mot écrit au clavier va ressembler, en fait, en termes de description, aux caractéristiques de ce qui va être retrouvé dans l'image. Et donc là, on est sur des mécanismes qui sont très très différents, mais qui sont beaucoup plus robustes aussi et puis plus intéressants, parce qu'on n'est pas... il n'est plus nécessaire de faire artificiellement, on va dire, une fabrication de mots qui est forcément plein d'erreurs, parce que lorsqu'on refabrique artificiellement un mot, bien toutes les associations de lettres, on ne les a pas, et donc ça fait presque 40% de l'information du mot qui disparaît. Donc ça donne des résultats qui sont généralement pas très bons. Voilà pour les premiers essais. Et là, c'est une interface en fait qui avait été proposée et qui marchait également sur d'autres types de. Donc on l'avait utilisé sur des textes syriaques, hébreux, arabes, sur des épigraphies, sur des textes, sur du texte médiéval, sur tout un tas d'écritures différentes. Je ne sais pas le temps que j'ai si je veux zoom sur.
Malheureusement, il va falloir qu'on.
Ah oui, d'accord. Oui, non, mais parce que voilà. D'accord, comme ça je vais pouvoir. Bah, du coup, il y a plein de choses que j'ai pas racontées, des projets, nos projets, c'est pas très grave. Mais je vais peut-être parler d'un projet qui est un projet un peu plus futuriste aussi, en lien avec la Time Machine. Ça vous donne un peu une couleur du temps aussi et de ce qu'on est capable de faire. Donc aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir rentrer dans ce dispositif de machine à remonter le temps, parce que c'est des choses qui intéressent massivement vraiment le patrimoine au sens large, les archives, les bibliothèques. Les contenus documentaires, mais pas que la documentation écrite et la documentation telle que l'on connaît, la connaît nous, mais c'est également tout ce qui concerne en fait le rendu, c'est-à-dire le rendu réaliste d'une architecture urbaine, par exemple la reconstruction 3D d'un espace de rue par exemple. Il y a également une autre dimension qui n'est pas souvent utilisée, c'est la dimension sonore. Lorsque l'on a affaire au son, c'est une dimension patrimoniale que l'on oublie souvent parce qu'on a peu d'enregistrements sonores aux époques anciennes. On en a depuis pas si longtemps finalement, mais quand on remonte au 18e, il n'y avait pas d'enregistrement de son. Donc on avait l'image, on avait quelques gravures, on avait peut-être les débuts de la photographie du 19e, mais il y a beaucoup d'informations qu'on n'avait pas. Donc aujourd'hui, on est aussi sur une fabrique de nouveaux médias, comme l'a dit Joseph tout à l'heure. Donc pour le grand public, pour les musées, dans des scénarios assez ludiques aussi de revisite du passé. Mais c'est intéressant parce que nous, ça nous permet de mettre en lien des informations qui sont assez hétérogènes, qui sont très éparpillées et qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, de but en blanc. On n'est pas que sur l'image, mais on est sur justement une collaboration d'informations assez différentes. Et dans le projet qui concerne la Time Machine, c'est un projet qui s'appelle l'archéologie du paysage sonore, c'est-à-dire on va refabriquer des données sonores du passé à partir d'une étude qui est une étude de documentation des archives et des bibliothèques. On va aller fouiller dans les archives et les bibliothèques, on va aller chercher dans les photos, dans les gravures et dans les textes de l'information, donc sélectivement. Et cette information, c'est une information qui fait du bruit, en gros, c'est des informations qui sont empreintes ce sont des données sonores, des marqueurs sonores, on va dire. Donc il est nécessaire de travailler aussi avec des linguistes qui connaissent les mots du passé, les terminologies d'époque. On travaille avec des spécialistes de mining, de data mining. C'est une discipline scientifique qui vise à extraire automatiquement des notions dans les textes et puis de trouver aussi des associations de mots pour savoir exactement comment les mots coexistent ensemble. Et donc c'est un travail très très pluridisciplinaire qui nous permet d'aller fouiller dans les images aussi, finalement, et avec ces espaces de représentation qui sont des espaces communs, où on essaie de trouver à extraire sans avoir besoin de tout lire. Alors un exemple qui peut vous intéresser, si vous avez une connexion internet à l'occasion, pour voir une petite démonstration qui s'appelle Bretèse. Vous faites un bruitage sur Google et vous pouvez regarder une petite vidéo qui dure 6-7 minutes qui a été fabriquée par une musicologue et qui a fait pour le quartier du Châtelet de Paris. Elle a fait justement un rendu réaliste en 3 dimensions avec une société, c'était Urbilog aussi, qui avait beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, elle a participé à la bande-son du film Assassin's Creed, c'était plutôt du jeu vidéo, mais dans une version très scientifique. C'est-à-dire qu'elle n'a rien inventé, elle n'a pas inventé un seul son. Elle savait qu'exactement, en tout cas dans Paris, que dans cette rue, eh bien, il y avait un forgeron, il y avait un marché le mardi matin, il y avait tel ou tel corps de métier. Elle savait exactement que cette rue était large de 4,50 m, même si elle a changé d'épaisseur. Elle savait exactement. Donc elle a travaillé scientifiquement de manière très très précise sur l'ensemble des dimensions du paysage et de la rue pour pouvoir derrière faire une restitution sonore du quartier. Donc elle a travaillé la bande son du quartier et aujourd'hui nous on l'aide sur le plan du documentaire, donc dans l'extraction d'informations, automatique d'informations, en utilisant des techniques qui sont des techniques de traitement d'image. Voilà. Bon ben après j'ai un peu écourté ce que je voulais vous montrer, mais ça.
Voilà. Merci.
Je propose quand même qu'on prenne le temps de